C'est bon? Ok. Donc, depuis toujours, moi, j'étais impliquée dans la louange et dans l'intercession, dans la prière. Mais pas la prière pour les personnes, etc., mais surtout plutôt sentinelle, selon Ézéchiel 3:17. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une certaine lassitude des réunions de prière classiques. Où on vient avec une liste de prières, où on égrène tous les sujets de prière, etc., etc. C'est bien, hein, mais j'étais un petit peu lasse de ce genre de réunion. Je voulais vivre autre chose. Et déjà, quand je m'occupais de ce gré en 2009-2010, voilà, j'avais inventé un terme qui s'appelait la louange intercessionnelle. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la prière était mieux portée par la louange. Donc, on avait fait quelques réunions comme ça. En 2012, j'avais été interpellée par l'histoire de Samuel, que je connaissais, bien sûr, mais par quelque chose de particulier. C'est-à-dire que j'étais interpellée par le fait que Samuel, un jeune enfant, dormait dans le sanctuaire, là où il y avait la présence de Dieu. J'avais apporté un message, d'ailleurs, à l'église à cette époque-là. Et suite à ce message, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer des veillées dans le sanctuaire. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont assisté à ces veillées dans le sanctuaire. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Anne-Hélène, Claudine peut-être. Des veillées dans le sanctuaire. Donc c'était des soirées qui commençaient à 7h et qui finissaient à 23h, bien souvent. C'était un environnement un peu cocooning. Hein. On reculait les chaises, il y avait de la moquette, on mettait des coussins, il y avait plein de bougies, il y avait des parfums, il y avait la table avec le pain et le vin pour la scène. Et puis on avait des temps de méditation avec un fond musical où chacun pouvait méditer personnellement. On prenait des temps pour apprendre à visionner, je dirais, à avoir des visions. Et pour ça, on prenait les visions de la Bible, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, l'Apocalypse, etc. Et puis on les lisait, on essayait de pénétrer, de voir ce qui se passait dans ces visions. Parce que je me suis toujours dit que si les visions elles étaient écrites, c'était pour nous montrer qu'on pouvait nous aussi avoir des visions et que ces visions, on pouvait aussi les travailler. Et puis, on avait des temps de méditation de la parole sur chacun un texte. Enfin, on avait tous le même texte, mais chacun méditait dans son coin. Alors, les gens partaient un petit peu partout, là, des fois. Des temps de silence, etc. Et des temps de louange, bien sûr, et d'adoration, partage de la scène, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé les veillées dans le sanctuaire, à raison d'une par mois. Et en mars 2013, on a organisé une journée de 12 heures de prière, avec trois temps, un peu comme on avait fait l'autre jour, des trois temps communautaires, matin, midi et soir. Et puis, dans le courant de 2013, on commençait à parler de la maison de prière. Et puis, c'était aussi, on commençait à parler, à mettre en place, et à ce moment-là, on avait en vue la synagogue. Donc, on était très attachés à ça. Donc, voilà, en 2013, la maison de prière a commencé. Et puis, ensuite, en 2014, on a organisé un grand week-end de formation avec Christine Janville, Soda Pop, les maisons de prière de Rennes, de Nantes, et il y en avait aussi de Royan. Le thème, c'était « Te louer de tout mon être ». Donc, c'était la formation à la danse, pour exprimer notre louange aussi avec notre corps, âme et esprit. Voilà, donc on a aussi organisé après plusieurs veillées de louange cœur à cœur, qu'on avait appelé cœur à cœur sur la suggestion de Claire. Et puis il y avait pas mal de personnes extérieures qui venaient à ce moment-là, à ces soirées, d'autres personnes de l'église avec des enfants, même des temps de louange et d'adoration. Voilà, donc petit à petit, la maison de prière s'est mise en place, bien modestement. On avait 8 heures de veille avec celle du jeudi. Et puis on l'a appelé Jardin des Parfums. Pourquoi Jardin des Parfums, à votre avis? Comment? J'entends rien. Oui, bien sûr. Mais j'avais appelé Jardin des Parfums parce que la région de l'Anjou est un pôle végétal mondialement connu. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc le fait d'appeler Jardin des Parfums, c'était bien. Donc pendant ce temps, j'avais fait connaissance avec le réseau des maisons de prière à Toulouse et puis j'ai suivi quelques semaines de formation avec Melchisédek. On a fait des distributions de cartes de bénédiction dans les quartiers de la ville. Et puis on va tous les ans faire des câlins, place du ralliement, à tous les gens. Voilà, c'est des temps super. Voilà, petit historique de la maison de prière d'Angers. Est-ce que quelqu'un est capable de dire les trois caractéristiques d'une maison de prière partagée par Karel l'autre jour? Comment? Il faut prendre des notes, bah oui, il faut s'en souvenir. Vous savez que vous pouvez aller sur le site de l'église et vous pouvez réécouter la formation si vous avez oublié ce que Karel a dit, ce qui est dommage. Oui, bah, alors le problème. Oui. Et puis un style de vie, culture de la prière. Voilà. Donc il y a certainement des choses qui ont été dites par Karel, certainement des choses que je vais redire et certainement des choses qui seront redites après. On va souvent revenir sur l'adoration, parce que finalement tout converge vers l'adoration dans la maison de prière. Donc on va souvent en parler. Pourquoi? Parce que Dieu cherche, comme Jésus le disait à la Samaritaine, Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc ce soir, je voudrais vous parler de deux points importants qui font partie des fondements des maisons de prière. Alors le premier point, c'est le tabernacle de David. Le tabernacle de David, c'est le modèle pour la louange perpétuelle. Alors c'est quoi le tabernacle de David? Alors on l'appelle le tabernacle, on l'appelle la tente, on l'appelle la maison de David, on l'appelle plusieurs noms. Si vous vous souvenez de cet épisode où David va chercher l'arche qu'il veut faire monter près de son palais, et puis il utilise la mauvaise manière, c'est-à-dire il pose l'arche sur des bœufs et à un moment donné l'arche est prête de tomber et puis Uzza veut la retenir et paf, il est mort parce qu'il ne devait pas la toucher. Bon, c'était assez dur. Donc David, pas très content après Dieu, après cet épisode, va laisser un petit peu l'arche chez Obed-Edom, qui pendant ce temps-là va avoir une maison, enfin la maison d'Obed-Edom va être bénie. Plus tard, après avoir compris son erreur, David retourne la chercher, selon les directives de Dieu, et tout se passe bien. Alors les directives de Dieu, c'était que l'arche devait être portée par les Lévites. Donc tout se passe bien, il y a la musique, il y a la danse, on danse pour Dieu, etc., etc. David avait préparé une tente pour y mettre l'arche à Sion, dans la cité de David, là où il avait fait construire son palais. Et puis il l'a mise tout près de son palais. Il l'a déposée là, dans les danses, dans les chants, dans la musique. Le peuple a fait la fête. Ils ont offert des sacrifices, de communion. Il nous est dit que c'est ce jour-là que David a chargé Asaph et ses frères de la louange devant l'arche continuellement. Alors à ce moment-là, il y avait deux lieux. Parce que David était allé chercher l'arche qui se trouvait à Gabaon. Et donc à Gabaon, il est resté l'autel des holocaustes. Et puis David a emmené l'arche près de son palais. Donc dans 1 Chronique, au chapitre 25, il y a l'énumération de 24 équipes. Alors c'était par famille, il y a 24 équipes de musiciens et chanteurs. Ils avaient chacun leur créneau pour faire la louange et l'adoration. Ils faisaient ça par famille. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service les descendants d'Azaph, d'Éman et de Jedutun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et tous les fils d'Éman, qui étaient voyants du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Donc ça, c'est dans 1 Chronique 25. Hein. Prenez note, hein, parce que j'ai pas fait de PowerPoint. Vous savez qu'Azaph a écrit des psaumes. Il a écrit 11 psaumes. Je lis quelques phrases de ses débuts. Par exemple, le psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Psaume 79. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Donc voilà, David met en place la louange perpétuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours, dans ce tabernacle, dans cette tente. Alors la tente de David a duré une trentaine d'années, le temps que le temple soit construit par Salomon et que l'autel des holocaustes et l'arche de l'Alliance y soient à nouveau réunis. Vous savez que David voulait construire le temple, mais que Dieu lui a dit non, c'est pas toi qui vas le construire, parce que toi tu as été un homme de guerre, ce sera Salomon, ton fils. Et donc c'est Salomon qui a construit le temple, mais il est dit que David a reçu les plans de la part de Dieu pour le temple. Il a reçu les plans selon le modèle céleste. Mais ça m'a toujours un peu étonné que ça dure une trentaine d'années, le temps de la vie de Jésus, pratiquement, prophétique. David désirait être le plus près possible de Dieu. Vous connaissez tous le psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, comme ce n'était pas encore le temps pour David d'aller là-haut, dans le temple, d'habiter dans la demeure de Dieu, il a fait venir l'habitation terrestre de Dieu chez lui. C'est une façon de voir les choses, en tout cas. C'était une bonne chose et pourquoi pas nous faire la même chose chez nous, faire venir habiter Dieu dans notre maison. C'est près de son palais qu'il lui a construit, à l'intérieur de son palais, qu'il lui a construit une tente spéciale, parce que l'arche dans le tabernacle, c'était la présence de Dieu. Et David était un adorateur tellement fort, tellement qu'il voulait vraiment la présence de Dieu près de lui. Alors c'est vrai que dans le tabernacle de Moïse, seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, où se trouvait l'arche. Mais l'arche est restée environ 300 ans à Silo, après qu'il soit rentré dans le pays, le peuple. Mais à partir de d'ailleurs, ça commence au moment où Samuel était déjà dans le temple, avec le sacrificateur Élie, qui avait deux fils qui n'avaient pas une bonne réputation. Et donc, ils ont été attaqués par les Philistins. Et puis, les deux fils d'Élie se sont dit, tiens, on va emmener l'arche de l'Alliance au milieu de l'armée, comme ça, le Seigneur sera avec nous, et puis on va gagner. Et bien non, ils ont perdu. Ils ont perdu, et l'arche a été emmenée par les Philistins. Et puis, l'arche, elle a été prise, elle a été rendue à cause de problèmes, elle a été reprise, enfin bref, elle a voyagé pas mal, l'arche. du coup, dans le sanctuaire, ça se passait plus très très bien. Et David a voulu lui redonner une place de choix. Alors on aurait pu dire, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de Saül, le roi Saül, qui un jour avait fait, il en avait marre d'attendre Samuel, donc il a fait lui-même les sacrifices, et puis quand Samuel est venu, il lui a dit, mais tu n'avais pas le droit de faire ça, tu n'es pas sacrificateur. Et donc Saül a été rejeté. On s'est dit, ben, pourquoi David, lui, il emmène l'arche, et puis tout va bien, quoi. Eh bien, parce que David avait un cœur pour Dieu. Il avait un cœur entier pour Dieu. Alors, son plan, il a marché. David voulait vivre ce cœur à cœur avec Dieu. C'était un adorateur selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut vivre avec chacun de nous. Et personne n'a été choqué à ce moment-là que David emmène l'arche. Non. Personne n'a été choqué. Et c'est parce qu'il était un adorateur qu'il a mis en place cette louange et adoration, 24-7, pour entretenir, d'une certaine façon, cette présence. Cette louange, c'était pour entretenir la présence de Dieu dans ce lieu. Malheureusement, après David et Salomon, le royaume s'est déchiré, puis le temple a été détruit. Donc voilà un peu comment l'histoire du tabernacle de David. Le texte biblique sur lequel se basent beaucoup les maisons de prière, c'est Amos 9, 11. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Là, on dit cabane, ça peut être tente ou maison. Je réparerai les brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était d'autrefois. Et Jacques, dans le livre des Actes, cite ce passage au cours d'une discussion, d'un problème qu'il devait régler avec les apôtres. Il recite ce passage. « Après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai. » Ces versets font mention d'une restauration de la maison de David. Et c'est ce qu'est venu accomplir Jésus. C'est lui qui est venu nous révéler le Père, la présence du Père. Il est venu nous donner une nouvelle liberté de nous approcher du Père. Ce ne sont pas les maisons de prière qui sont à l'origine de la restauration de la tente de David. C'est Jésus-Christ qui est venu rétablir la lignée royale de David et la sacrificature selon Melchisédek. Donc c'est vraiment Jésus qui est venu rétablir cette lignée. Pourquoi ? Parce que Jésus était fils de David. Que pensez-vous du Christ, dit-il aux Juifs, de qui est-il le fils? Ils lui ont répondu, de David. Et à ce moment-là, vous rappelez, dans les évangiles, souvent les malades, fils de David, aie pitié, criaient fils de David. Il était reconnu comme étant fils de David, c'est-à-dire de lignée royale. Donc il est venu rétablir la royauté de David qui était tombée, qui avait chuté. Il est le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Si vous vous rappelez, il disait en parlant de lui-même, « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. » Jésus seul est venu relever la tente de David et les maisons de prière, entre autres, font partie de ce processus de restauration qui sera accompli pleinement à son retour. Donc, les maisons de prière font partie de ce processus de restauration au moyen de la louange et de l'adoration. Elles y contribuent, car l'adoration perpétuelle instaurée par David est voulue de Dieu. C'est le moyen par lequel il communique avec son peuple. C'est un va-et-vient entre le ciel et la terre. On en parlera certainement dans une prochaine rencontre. L'adoration nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Elle est essentielle dans les maisons de prière. Car comme le dit Éphésiens, dans le premier chapitre d'Éphésiens, par 3 fois il est dit, nous sommes destinés à célébrer sa gloire. Pour servir à célébrer sa gloire. Je ne sais pas si on est souvent en train de réaliser vraiment qu'on est fait pour ça, en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes destinés à célébrer sa gloire. Amen. Il y a quelques années, j'avais fait un message sur la louange, en parallèle avec le temple. Alors, dans le temple, il y avait trois lieux différents. Il y avait d'abord le parvis. Ensuite, il y avait le lieu. Alors, on entrait. Alors, le parvis, c'était. Quand on parle du temple, c'est vraiment tous les murs extérieurs du temple. C'est pas seulement le sanctuaire. Jésus allait, par exemple, dans le temple. Quand il allait prêcher dans le temple, il n'était pas dans le sanctuaire, dans le lieu saint ou le lieu très saint. Il était sur le parvis. C'était là qu'il prêchait, c'était là que même après les disciples, dans les actes, se retrouvaient pour évangéliser. Donc il y avait le parvis qui était le lieu du peuple. Le peuple se retrouvait là. Et puis quand il venait pour les fêtes et tout ça, il chantait les cantiques des montées, comme dans les psaumes. Et je comparais ce lieu, le parvis, au fait d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce que tu as fait, merci parce que tu es fidèle, parce que tu nous as rachetés, merci, voilà, de la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. C'était là qu'on offrait les sacrifices. Mais souvent, j'ai remarqué qu'on restait souvent sur le parvis. Ensuite, on entre dans le tabernacle. Alors, c'est vraiment le lieu, le bâtiment du temple. On entre dans le tabernacle, c'est le lieu saint. Et seuls les lévites et les sacrificateurs étaient autorisés à entrer dans ce lieu saint. Quand on était allé en Israël une fois, j'avais demandé à un rabbin, je lui ai dit, mais alors comment est-ce que le peuple pouvait voir l'intérieur du temple? Alors il m'a dit, ben non. Alors il me disait que selon la tradition, ils ouvraient les portes, les grandes portes du temple de temps en temps pour que le peuple puisse voir à l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'était pas pour le peuple, c'était pour les lévites et les sacrificateurs. Ça vous choque, non? Donc dans ce lieu saint, les lévites et les sacrificateurs faisaient leur service, et j'avais comparé ça à ce que Dieu est, c'est-à-dire que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est guéri, Dieu est bon pour moi, Dieu est amour pour moi, Dieu, voilà. Donc sur le parvis, c'est ce que Dieu a fait, là c'est ce que Dieu est pour moi, et puis ensuite le lieu très saint. C'est qui Dieu est. Dans sa nature, saint, glorieux, magnifique, majestueux. Dans ce lieu-là, on n'y vient pas pour soi-même, mais pour y vivre l'intimité et l'adoration. Là, c'est moi pour Dieu. C'est pas Dieu pour moi, c'est moi pour Dieu. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, du temps du temple, les gens ne pouvaient pas entrer comme ça dans le temple. Mais aujourd'hui, comme nous avons accès par Jésus, dans ces lieux saints, nous pouvons nous-mêmes y entrer. C'est le cœur même de ce que doit être la maison de prière. David avait pris l'arche qui se trouvait dans le lieu très saint pour en faire ce lieu d'adoration. Entretenir la présence de Dieu par une louange perpétuelle. Alors c'est toute la différence avec une réunion de prière classique. On ne vient pas avec une belle liste de sujets de prière toute faite. On vient chercher le cœur de Dieu. On ne vient pas non plus avec nos sujets personnels. Bon, même si ce n'est pas interdit, ça peut arriver, hein, mais voilà, il ne faut pas que ce soit une habitude. On ne vient pas avec nos sujets personnels. Le Saint-Esprit peut nous guider à certains moments pour nous conduire dans des moments de prière comme ça. Dans ce sens, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que si on vient avec nos belles listes, déjà notre attention, elle est tournée vers nous plutôt que vers Dieu. Ah, il faut que je prie pour ça. Donc notre attention se détourne de Dieu, alors que Dieu doit être au centre. Dans ces formations que j'ai faites à Melchizedek, quelqu'un disait, il doit y avoir 10% de requêtes, 20% d'intercession et 70% d'adoration. Donc on doit s'oublier et donner la priorité à Dieu. Il n'y a plus que lui. Dans l'adoration, nous renonçons à nous-mêmes, à notre volonté. David disait, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Tout est tourné vers Dieu pour recevoir ses pensées, prier ses prières, pour que notre intercession soit efficace. Vivre une adoration prophétique pour que son royaume s'étende. Il y a une expression que Fabienne Ponce dit souvent, je ne sais pas si c'est d'elle ou si elle l'a reprise, mais on vient chercher sa face, mais pas sa main. Hein, vous comprenez ? On vient chercher sa face, c'est-à-dire le voir lui, mais pas sa main qui bénit seulement, quoi. Des fois, on vient juste chercher sa main. Bénis-moi. Non, quand on est dans la maison de prière, dans l'adoration, on vient chercher sa face, mais pas sa main. Ça ne veut pas dire que dans ces temps, le Seigneur ne bénit pas. Au contraire, il peut guérir, il peut restaurer, il peut renouveler, enfin, il peut faire un tas de choses. Comme dit Jésus dans Matthieu 5, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ça vous sera donné par-dessus. Donc, voilà, se détourner de soi et être centré vraiment sur Dieu. C'est la restauration du tabernacle de David. Je cite juste deux textes que je ne développerai pas. Peut-être que c'est Karel qui le fera un jour, je ne sais rien. Mais qui sont un petit peu la suite du tabernacle de David. On parle de clé. La clé de David, c'est dans Ésaïe 22:22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Puis dans Apocalypse, à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Voilà, dans ce que je viens de partager, il était question que Jésus est venu rétablir la royauté de David. Cela marche avec cette question de clé aussi, donc je vous laisse sur la fin, peut-être que vous pourrez aller chercher aussi de votre côté, non ? Pourquoi pas ? Et puis il y a question aussi de la restauration selon l'ordre de sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek. Donc je vais passer au deuxième point. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? C'est clair ? Dites-moi oui, sinon... Vous avez tout compris ? Ok, donc je vais aborder le deuxième point. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Vous connaissez tous Melchisédek ?
Bon, vous êtes...
D'accord. Donc je résume quand même, après qu'Abraham ait gagné la bataille contre Kedor Laomer, qui avait enlevé Lot et sa famille qui résidait à Sodome, Melchisédek est apparu comme ça. On ne sait pas d'où il venait, on dit qu'il venait de Salem. Alors Salem, on imagine que c'est l'ancienne Jérusalem, mais bon, il n'y a pas de certitude. Donc Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ça, c'est dans Genèse 14:18, si vous voulez noter les références. Puis dans Hébreux 7:1, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire que s'il demeure à perpétuité, ça veut dire qu'il est toujours là aujourd'hui. Hein? Petite remarque, comme ça en passant. Ce roi de paix, roi de justice, Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Et Salem, ça veut dire, ça vient de paix. Qui n'a ni père, ni généalogie, et à qui Abraham a donné la dîme, rendu semblable au Fils de Dieu. C'est ce qu'on peut appeler une théophanie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu dans l'Ancien Testament, des moments où il se révèle en s'incarnant dans une personne. Par exemple, je vous donne deux exemples. J'avais fait aussi des études là-dessus il y a pas mal d'années. Quand les trois hommes viennent voir Abraham, sur les trois, il y en a un, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. D'ailleurs, Abraham l'appelle Seigneur. Et puis, il y a un autre, je vous donne ces deux-là parce que c'est le plus... Il y en a un autre aussi que j'aime bien, c'est quand l'ange de l'Éternel... Alors souvent, quand c'est écrit l'ange de l'Éternel, c'est la parole, Jésus, la parole. Quand l'ange de l'Éternel est venu trouver la maman de Samson pour lui annoncer qu'elle allait avoir un bébé, après, quand il se retrouve avec son mari... Ils veulent lui offrir un sacrifice, donc ils offrent un sacrifice, puis ils lui demandent son nom. « Dis-nous, quel est ton nom ?» Et il répond « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Si ça avait été un ange normal, il n'aurait pas dit que mon nom est merveilleux. Et puis, quand les sacrifices ont été offerts, l'ange est remonté. Donc voilà, pour moi, le Melchisédek, c'est la manifestation de la parole. Fait un peu comme dans Jean, on dit la parole faite chair. Bon, là, il a été incarné véritablement au travers de l'accouchement de Marie, etc., etc. Mais là, il faisait des apparitions comme ça. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire des études là-dessus. J'en ai plein. Ça me passionne. Donc, et puis en plus, ce Melchisédek, il fait venir quoi? Il fait venir quoi? Il fait amener du pain et du vin. Est-ce que ce n'est pas prophétique ça? Le pain et le vin qui représentent aussi Jésus. Aujourd'hui encore, quand on va en Israël, je ne sais pas si ceux qui sont venus, qui sont allés en dehors de nous ont vécu ça, mais nous, à chaque fois qu'on va en Israël, on nous emmène sur le mont Scopus et on partage le pain et le vin qui s'appelle la bénédiction du pèlerin. Donc ce Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Quand on étudie le livre aux Hébreux, on voit que le sanctuaire terrestre n'était que l'image du céleste. Quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui a montré, tu feras comme je t'ai montré sur la montagne. Et dans Hébreux 8:3, il est dit, ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Alors imaginez que dans le ciel, il y a un sanctuaire énorme, magnifique, certainement plein d'or, plein de... et que celui qui était terrestre, c'était qu'une petite image. Il est dit, donc dans Hébreux 5:6, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Ce que je voulais dire aussi, que j'ai oublié, c'est que on a dit tout à l'heure que si Melchisédek est sacrificateur à perpétuité, ça veut dire qu'il l'est encore, donc ça veut dire que Jésus est toujours lui aussi sacrificateur céleste depuis l'origine. Il est notre souverain sacrificateur. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est amusant parce que ça, c'est Hébreux 5, 6, et au verset 11, il est dit, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. C'est vrai que quand on lit l'Épître aux Hébreux, ça peut nous paraître un petit peu difficile à comprendre. Je continue en Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur ce ministère que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Donc ces chapitres 5 à 9 d'Hébreux, vous pourrez les relire chez vous, même jusqu'au 10, parlent de la sacrificature de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est souverain sacrificateur, non par sa lignée, parce que lui ne descendait pas de la tribu de Lévi. Vous savez, pour être sacrificateur et lévite, il fallait être descendant de la tribu de Lévi. Et sacrificateur, c'était... Donc Aaron était une famille des Lévites. Et Jésus ne descendait ni de l'un ni de l'autre. Alors comment est-ce qu'il peut être souverain sacrificateur? Il ne l'était pas par sa lignée, mais par son sacrifice à la croix pour nous. Il est devenu par serment, non par lignée. Ainsi, la sacrificature de Jésus est bien plus excellente que celle d'Aaron. De plus, il a ouvert la voie vers le lieu très saint, qui auparavant était interdit d'accès, sauf au souverain sacrificateur qui pouvait y entrer une fois par an au moment des expiations à Yom Kippour. Une seule fois par an, l'entrée dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, nous avons libre accès. C'est formidable. C'est incroyable. Ainsi, notre service, ou notre sacerdoce, si vous voulez employer un mot un petit peu plus mieux, un peu mieux, notre sacerdoce est complètement différent de celui d'Aaron et des prêtres. Pierre nous dit, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. On nous invite à former une maison spirituelle. C'est un peu ce qu'on fait à la maison de prière, former une maison spirituelle. Et puis je continue, toujours Pierre, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, que Dieu, selon les versions, un peuple que Dieu s'est acquis. Moi, j'aime bien cette expression, que Dieu s'est acquis. Il nous a acquis, là. On est à lui. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je reviens à Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme, elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Donc Jésus a ouvert une nouvelle vie, une nouvelle voie, une route nouvelle et vivante, inaugurée par lui-même. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en prive bien souvent? On reste sur le parvis, au lieu d'entrer dans ce sanctuaire où Dieu nous attend. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Vous connaissez le verset, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous avons conscience, souvent, est-ce que on a conscience d'être des prêtres? Au service du, de ce tabernacle divin, des prêtres pour Dieu son Père. Du temps de Jésus, l'arche n'était plus dans le temple. Vous savez, l'arche, c'était la présence de Dieu. C'était ce coffre dans lequel il y avait la manne, puis le bâton d'Aaron, et puis dessus, il y avait deux chérubins en or qui étalaient leurs ailes, enfin, quelque chose de très beau en or. Et puis, du temps de Jésus, l'arche n'était plus dans le temple. Le lieu très saint était vide. Ça datait de Nebuchadnezzar, un petit peu avant peut-être, parce que quand Nebuchadnezzar est venu, il a détruit Jérusalem, il a détruit le temple. Mais on pense que l'arche avait été sauvée, peut-être par le roi Joas, un des derniers bons rois de Juda. Mais bon, ça c'est... On ne l'a pas retrouvé encore, hein, l'arche. Elle est toujours en... La cherche toujours. Mais j'étais impressionnée, moi, de me rendre compte que du temps de Jésus, dans le temple, le lieu très saint, c'était l'absence, c'était le vide. Et Jésus est venu remplir ce vide. Il s'est incarné. Ah, pour moi, ça m'émeut. Jésus est venu combler, remplir ce vide qui était là, au milieu du peuple d'Israël, qui, je ne sais pas s'ils en rendaient vraiment compte. Je ne sais pas comment le prêtre, le souverain sacrificateur, allait à Yom Kippour, derrière parce que le voile était là, mais derrière, il n'y avait plus rien. Ça nous montre ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et comme lui, nous ne sommes pas descendants de Lévi, mais Jésus étant sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et de par la volonté de Dieu, il a ouvert cette route nouvelle et vivante. C'est par la foi que nous pénétrons derrière le voile pour accomplir notre service et notre sacerdoce, même si le voile n'existe plus, puisque quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Nous pénétrons dans le lieu très saint et nous offrons des parfums qui sont notre adoration. Pierre nous dit que nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Il y a un verset dans Ésaïe 43, 21 qui dit « Le peuple que je me suis façonné dira ma louange ». Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. Vous-même, dit 1 Pierre 2,5, vous-même comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels auprès de Dieu par Jésus-Christ. Les sacrifices que nous offrons sont spirituels. Et je répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais construisez-vous pour former une maison spirituelle. C'est le but des maisons de prière, c'est de former cette maison spirituelle, ces maisons spirituelles, parce qu'il n'y a pas que la nôtre, des maisons spirituelles où nous pouvons exercer le sacerdoce, le saint sacerdoce que Jésus nous invite à exercer. Ces deux points, le tabernacle de David, la sacrificature selon Melchisédek, nous amène dans le lieu très saint, là où nous sommes appelés à exercer notre sacerdoce. Que ce soit la restauration du tabernacle de David ou la sacrificature selon Melchisédek, elles se sont accomplies en Jésus-Christ. Les sacrificateurs exerçaient leur fonction dans le lieu saint et dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, loin des préoccupations de la vie. La maison de prière, c'est ce lieu où on se met à part, vraiment pour Dieu. Il n'y a plus que lui qui compte. On cherche sa face ensemble. On est à son écoute. On prophétise, on voit les réalités célestes. On prie ses prières. On intercède selon son cœur. On proclame sa parole. Dans la maison de prière, nous nous efforçons d'entrer dans le lieu très saint pour entretenir la présence de Dieu. Entretenir la présence de Dieu. Alors ne restons pas sur le parvis. Il nous faut entrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Je cite ce que j'ai entendu aussi. Là. Tant que nous restons sur le parvis, c'est le regard des hommes que nous affrontons. Parce que là, il y a tout le peuple qui est plus ou moins avec Dieu, sans Dieu, enfin bref. Mais quand nous entrons dans le lieu saint, c'est le regard de Dieu qui se pose sur nous. Donc, je termine en répétant que la maison de prière, c'est un endroit où on se met à part vraiment pour Dieu. C'est pas, on va lui poser la question une fois, oui, c'est une nouvelle église, la maison de prière. Non, on n'est pas une nouvelle église. On fait pas de baptême, on fait pas de mariage, on fait pas de choses comme ça. On est juste là pour chercher la présence de Dieu. Donc, on peut être de différentes églises et être unis ensemble dans la présence de Dieu. Pour chercher sa face, pour faire grandir son royaume, en cherchant à faire sa volonté et pas la nôtre, en ayant nos yeux fixés sur lui et non pas sur nos problèmes, nos difficultés, en venant pour apprendre à être à son écoute, apprendre à le voir aussi, que les visions se multiplient au milieu de nous, mais surtout aussi autour de sa parole, et ça on le reverra une autre fois aussi, parce que la parole est importante dans les maisons de prière. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon petit exposé. Pas de questions ?